quand j'étais jeune, je voyageais pour aller rencontrer, dire bonjour à une amie chrétienne que je connaissais. Et j'étais content de sortir la voiture. Mais en sortant la voiture du garage, elle a glissé sur une plaque de givre et s'était trouvée dans le pare-choc de la voiture juste devant moi. J'ai dû ramener la voiture pour les réparations importantes et prendre le car, le bus, pour 25 heures de route pour arriver pour voir cette amie. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, Bob, tu sais, c'était pas la peine, fallait pas venir. Et il nous arrive d'avoir des circonstances où parfois, peut-être Dieu voulait me dire quelque chose. Et que je n'ai pas su discerner ou comprendre. Et il nous arrive dans la vie, heureusement, que le Père veille sur nous et il veut nous orienter, il veut aussi nous avertir. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu, il nous avertit comme un Père, nous qui sommes à lui, afin de nous mener au bon port, de nous conduire juste à son trône, jusqu'à lui. Quand nous roulons, Dieu, il nous met des panneaux de limitation de vitesse sur les routes. Les autorités. Et il est sans entendu que nous les respections. Mais il nous arrive aussi d'avoir des radars et on a un panneau aussi qui nous avertit, il y a le radar. Donc, après, il y a parfois le gendarme ou encore le flash qui nous interpelle et qui nous dit d'aller un peu plus doucement parce que parfois, si on roule trop vite, on pourrait créer un accident ou renverser quelqu'un. Donc, il y a des mesures de sécurité, des avertissements. Mais il y a parfois des manques d'attention, des fautes, des étourderies où on échappe un PV ou une amende. Mais Dieu aussi, il veut nous avertir pour notre sécurité, pour notre bien. Et dans le livre d'Apocalypse, où on tend tout près de la fin, c'est là où Dieu, il commence à vraiment vouloir nous parler avec un grand sérieux sur notre avenir. Mais c'est pour notre bien. C'est pour que nous menions une vie éternelle auprès de lui, que nous soyons heureux et que d'autres aussi puissent bénéficier, comme on a prié ce matin, de notre témoignage, de nos paroles, de notre vécu. En Apocalypse, Dieu est sur le trône, il y a des fléaux qui avertissent et qui vont en grandissant. Et finalement, il y a des coupes à partir du chapitre 16 jusqu'à 18 qui nous préviennent qu'il n'y aura plus de temps. Quand on tourne la prochaine page, on arrive au chapitre 19 et c'est l'éternité. C'est le Christ qui revient. Il n'y aura plus d'occasion d'apprendre, de grandir, de changer, de nous repentir, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et j'aimerais voir avec nous ce matin trois images qui nous parlent de ce que Dieu veut nous dire. Et donc le thème est qu'il y a Dieu, il y a nous, et puis nous vivons dans un monde. Et Dieu, il veut aussi nous orienter, aussi bien nous avertir, afin que nous menions à bien notre vie et que nous arrivions à bien, à bon port, à la bonne destination. Regardez avec moi, s'il vous plaît, en Apocalypse, chapitre 16. Nous allons regarder trois images. La première sont les images de Dieu qui est sur le trône. Et de ce trône partent ces messagers qui parlent pour lui, pour nous aider à comprendre. qu'il y a un Dieu aussi qui veut parler à nos amis, à ce monde, à nos familles, à toute personne, et qui parfois qui ne le connaissent pas encore. Le chapitre 16 parle des coupes. Des coupes que Dieu envoie par ses anges versées sur la terre, qui créaient des catastrophes et des difficultés sur toute la nature, les quatre premières coupes, afin d'avertir que dans les derniers temps, l'écologie va, la terre va trembler. Les eaux, la terre, même l'air. Et on sait que déjà l'air, la terre a déjà cette difficulté, cette épreuve. Mais juste à la fin, ces épreuves iront en croissant afin que les hommes commencent à réfléchir sur leur éternité et qu'ils lâchent un peu prise de notre quotidien, de notre maître boulot dodo, pour réfléchir un peu plus sérieusement quant à la vie. C'est un appel à se préparer. Dieu qui envoie des difficultés, c'est comme un père qui donne une fessée à son enfant. Ce n'est pas avec plaisir. Dieu aime son enfant. Dieu aime ce monde. Dieu aime sa création. Dieu aime le peuple autour de nous. Mais il est obligé, par amour, aussi d'intervenir. Il ne peut pas, et aussi par justice. Dieu est aussi juste. Il ne peut pas simplement laisser un monde aller faire ce qu'elle a, ce qu'il veut faire. Et donc, il intervient. Et c'est là où nous voyons qu'il y a des appels, des rappels à l'ordre, si vous voulez, où il essaie de ramener, nous ramener devant lui. Ce sont nécessaires, ces appels, par amour et aussi, comme on l'a dit, par la justice de Dieu. Pourquoi ces coupes? Pourquoi ces mesures? Je crois qu'il y a 4 ou 5 raisons pourquoi Dieu donne ou déverse cette colère, si vous voulez, sur la terre ou parfois même devant nous, quand on franchit la ligne qui n'est pas saine, qui n'est pas utile dans nos vies. On a déjà évoqué sa amour et sa justice, mais regardons aussi que quand il y a des catastrophes qui nous surprennent, nous sommes pris par un sentiment d'impuissance. Nous lâchons prise à ce qui est notre entourage. Quand j'étais derrière le volant et que la voiture glisse et on est impuissant pour la redresser, c'est là où on crie au secours. On sent bel et bien qu'on n'est plus en contrôle de la situation. De deux, le mal est là. Nous la côtoyons, nous le côtoyons tous les jours. Parfois, c'est un mal qui bourdonne dans l'arrière-plan, dans le fond. Et parfois, c'est un mal qui redresse avec une certaine puissance juste devant nous. Mais nous avons aussi parfois, face à ce mal, à savoir répondre, et parfois nous n'avons pas la puissance de redresser le mal. Et Dieu, quand il vient par des situations qui nous dépassent ou qui dépassent ce monde, c'est pour dire que c'est Dieu qui redresse, ce n'est plus les hommes, c'est un Dieu qui prend la situation en main pour redresser le mal. De trois, il y a aussi des batailles. Il y a des forces spirituelles néfastes qui s'opposent à Dieu. Et Dieu aussi utilise des armes, des moyens pour combattre. De quatre, c'est aussi un appel à la préparation pour nous-mêmes. De ne pas aller endormi. On dit que sur l'autoroute qu'au bout de 1h20, 1h30, c'est la monotonie, la vie monotone. C'est le ronron de la voiture, c'est la ligne droite. Et on s'endort au volant et on crée des accidents. Et Dieu ne veut pas donc qu'on soit victime d'un accident de la vie. Il veut que nous comprenions, il veut que nous prenions attention à ce qu'il veut nous dire pour nous instruire, mais aussi il veut que nous nous amenions au bon port sans qu'on tombe dans une fosse à bord de la route de la vie. au verset 17, après ces fléaux, ces difficultés que nous ne prendrons pas le temps d'examiner, nous voyons qu'il y a un septième ange qui crie d'une voix forte, venant du trône, sorti du temple, « C'en est fini, » dit-elle. Et combien Dieu veut que chacun de nous terminions bien notre vie. Que quand c'est la ligne droite et que nous passions de l'autre bord, que ce soit Dieu lui-même qui puisse nous accueillir en bonne condition de ce que nous aurions fait de cette vie, de nos talents, de notre effort, que ce soit donc Dieu qui est là pour nous recevoir, parce qu'il arrivera la fin à un moment donné. Face à ces épreuves, quelles sont les attitudes? Quand il nous arrive à nos contemporains des problèmes, des difficultés, des maux qui dépassent, qui cassent notre vie, notre quotidien, et qui nous amènent à nous tourner vers Dieu, on peut trouver deux réponses possibles. Et les deux se trouvent dans ce chapitre 16. La première réponse est au verset 5 et 7. C'est la réponse, premièrement, d'un ange envoyé qui dit « Tu es juste, toi qui es notre qui était, toi qui es le saint, d'avoir ainsi fait justice, parce qu'ils ont versé le sang de ceux qui t'appartiennent et de tes prophètes. Tu leur as donné à boire du sang. Ils reçoivent ce qu'ils méritent. » Verset 7, et la deuxième réponse, « Et j'entendis l'autel. » Donc, c'est-à-dire, ce sont les martyrs, ceux qui ont perdu leur vie à cause de leur foi en Jésus-Christ, qui disaient, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes arrêts sont conformes à ta vérité et à la justice. » C'est une réaction qui est possible. Mais il y a une deuxième réaction, bien sûr, qui est possible, au verset 9 et 11 du même chapitre. Les hommes furent atteints des terribles brûleurs. Ils insultèrent Dieu, qui a autorité sur les fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Ou encore, au verset 11. Sous le coup de leur souffrance et de leurs ulcères, ils insultèrent le Dieu du ciel. Ils ne renoncèrent pas à la mauvaise action. Et de nos jours, nous avons des deux cas de figure. Ceux qui ont déjà, avec le Christ, vu que c'est lui qui a bu la coupe de la colère de Dieu à notre place. Ils ont donc fait leur paix avec Dieu, pour que Dieu lui-même leur donne cette assurance qu'ils ont cette paix, qu'ils ont Dieu avec eux. Et quand bien même que tout l'enfer se déchaîne contre eux, ils peuvent tenir. Parce que Dieu est avec eux et ils savent que Dieu ne va pas les lâcher. Et j'espère que c'est votre situation. Quelle confiance, quel repos nous avons quand nous avons mis notre foi à l'épreuve et que nous savons que Dieu est là. Mais il nous arrive aussi, pour nous arriver, parfois, de vouloir lever le poing et lui dire « Pourquoi ?» On peut discuter. Mais on trouve qu'en discutant avec lui, si nous le connaissons, si nous sommes déjà pardonnés, graciés par le sang de Christ, quelque part dans cette discussion, ce dialogue avec Dieu, son esprit pénètre notre cœur et dans notre étourdissement et dans notre colère ou frustration, nous pouvons trouver que c'est sa paix, sa force, sa présence, sa personne. Et bien que nous ne voyons pas encore l'issue, nous savons celui à qui on s'est remis. Parce qu'on a déjà marché avec lui. Ces deux cas de figure. Sommes-nous en marche? Sommes-nous dans ce processus de transformation? Dieu est-il en train de nous casser la baraque parce qu'il veut en faire un palais pour y demeurer? Des changements profonds dans notre vie où il nous appelle à aller de l'avant, mettre notre confiance en lui et pas dans ce qu'on sait, ce qu'on voit, ce qu'on sent. Il y a des aspects de notre vie qui peuvent rester en dehors de sa bénédiction, stérile, infructueuse, du bois mort. Tu viens de tailler. Quand c'est la dernière fois qu'on avait fait le point avec notre Dieu, pour que lui-même, il aille avec nous, qu'il bénisse, qu'il fortifie. Les révisions techniques sur la voiture sont nécessaires avec pour le contrôle. C'est coûteux, ça coûte de l'argent et je ne sais jamais mettre l'ampoule au bon endroit pour bien éclairer le phare. Et même quand je suis recalé avec grâce, parfois on me laisse passer, mais c'est nécessaire. Parce que quand le phare est mal réglé, on ne voit pas. On risque de tomber dans une fosse ou faire un accident. C'est coûteux, c'est difficile parfois, c'est gênant d'aller faire le contrôle technique, mais c'est une très bonne idée. Et Dieu aussi, quand il fait le point avec nous, le checklist, pour voir, c'est parce qu'il veut qu'on roule bien, qu'on arrive au bon port. Il veut nous donner une vie qui est belle, qui est resplendissante, qui est remplie, qui vaut la peine d'être vécue. Il ne veut pas qu'on soit la vieille taco qui arrive, qui fume, qui tombe. Il veut qu'on soit, je ne sais pas si on peut mettre la BM, mais en tout cas, il veut qu'on ait une vie abondante, remplie, assurée, pleine. Et donc, il veille. Deuxième image, c'est que Dieu, il veut que nous comprenions l'ambiance moyenne où nous vivons, où il appelle ce qu'il appelle le monde. Et c'est la deuxième image, au chapitre 7, il se serait utile qu'on lise les 6 premiers versets, si quelqu'un veut nous aider avec la lecture à haute voix. Apocalypse, chapitre 17, versets 1 à 6. On peut se lever si on trouve, allez, en bonne voix, monsieur Eli. La deuxième image ici décrit que, surtout vers la fin des temps, et même autour de nous, nous avons un monde qui n'est pas passif, un monde, comme on veut nous faire croire, qui est à notre disposition, comme un jardin, pour nous satisfaire. C'est un peu plus virulent, cette situation. D'abord, j'ai vu que c'était comme une grande prostituée qui était assise sur les grandes eaux. Ici, je crois que c'est pour pousser un peu l'image, c'est pour comprendre que oui, Dieu a créé, mais c'est aussi pour comprendre que quand Dieu ne s'investit pas, ou quand on ne reconnaît pas Dieu, et que ce qui est là, il n'est pas neutre. Nous vivons plutôt dans un contexte, dans une ambiance où on prend position, surtout en Apocalypse, parce que dans 1 chapitre 2, ça n'est terminé. Vis-à-vis de Dieu, soit on utilise les biens et les puissances et les forces qui sont dans le monde et dans notre cœur et dans à notre disposition pour marcher avec Dieu, soit on va à la dérive et on laisse un peu couler. Et on surfe sur le monde et sur les désirs de son cœur. Et là, ce n'est pas une puissance qui va nous conduire normalement, naturellement vers Dieu. Au contraire. Il appelle ici l'apôtre Jean Babylone. Babylone est une image du premier empire mondial où Nebuchadnezzar est descendu sur Jérusalem, mettre feu au temple, amener captifs les plus brillants, les plus forts du peuple d'Israël à l'année 707 pour les conduire vers Babylone. Babylone, donc, est une image d'une puissance qui s'érige, qui s'oppose à Dieu. Regardons cette puissance qui nous est décrite dans ce chapitre 17 d'Apocalypse. Verset 3. Il me transporta dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête. Et cette bête était couverte de titres offensants pour Dieu. Elle avait sept têtes, 10 cornes, donc une puissance complète. Et la femme était vêtue, elle avait des bijoux précieuses, et dans sa main, une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution, et sur son front, la grande Babylone, la mère des prostituées. Elle est donc dans un lieu désert où Dieu ne se figure pas. Elle a une puissance où les gens viennent pour s'asseoir, pour lui donner, rendre hommage, pour lui rendre puissant ce personnage. Et puis, chapitre 17, verset 4, nous voyons aussi qu'elle combattait contre l'agneau ou contre Dieu. Au verset 7, si on continue la lecture de ce chapitre 8, il est dit qu'elle avait aussi, elle est plongée dans une vie de luxe. Et cette vie nous est décrite dans les versets 12 à 14. On recevait pendant une heure l'autorité royale, pendant une heure. Ils poursuivent un même but. Ils font la guerre. Pardon, chapitre 18, verset 12. Et pour acheter leurs marchandises, leurs cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, leurs étoffes du fin lin, du pourpre, de soie, d'écarlate, le bois aromatique, le bibelot d'ivoire, tous les objets, en bois précieux, en bronze, en fer, en marbre, la cannelle et d'autres épices, les parfums, et la liste continue. C'était en tout cas une image d'un personnage somptueux qui attire. D'une sorte que les rois de la terre font la débauche avec elle. Et elle est bien munie. Elle est luxueuse. Et on se prosterne devant cette puissance. Il me semble ici ce qui nous est décrit de par cette image est un monde qui a une certaine puissance et un attrait qui n'est pas neutre, qui n'est pas un terrain de jeu, mais plutôt qui a une puissance pour attirer, pour qu'on se courbe le front, qu'on s'agenouille devant ce monde. Et c'est ainsi que nous sommes mis en garde pour nous-mêmes de faire attention. Les chasseurs de l'Afrique, ils réputaient, coupent un noix de coco en deux, la vide, met une orange à l'intérieur, la remettre ensemble avec un trou juste assez grand pour la taille d'un singe. Puis on la suspend dans les arbres, et quand le singe arrive, il sent l'odeur de l'orange. Il lui plonge sa main pour retirer l'orange, mais puisque sa main est maintenant trop grande pour passer encore par le trou, il est coincé. Et les chasseurs qui sont dans le parrainage viennent, lui jettent un filet et il est pris. Alors, il en suffit, évidemment, pour qu'il ouvre la main, qu'il la retire. Et quelque part, attention à nous-mêmes. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Et le malin, il connaît nos points faibles. Et c'est là où on peut céder. Et il a des attraits et des atouts de son côté, comme l'argent, les moyens, ce qui brille. Même si on ne fait pas attention ici, le sexe en dehors du mariage. L'apôtre Jean disait, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. De quoi parle-t-il, ce monde? C'est cette attitude qui s'érige contre Dieu, qui est tout autour de nous, qui ne veut pas, c'est à moi, je te remercie. Et puis, on se laisse aller à la dérive. L'apôtre Jean continue, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du vieux du monde. C'est incompatible. Et nos cœurs vont soit être poussés vers ce qui est facile dans ce monde pour une vie de facilité, ou soit va pouvoir renoncer à certains attraits comme la noix de coco où on met sa main dedans, afin de laisser une place dans nos vies pour Dieu, pour que lui-même y donne la vie qui est vraie, pas la convoitise qui appelle et qui attrape et qui tue. Et donc nous devons faire attention. Jacques, le frère de Jésus, dit ainsi, « Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Ou l'apôtre Paul, qui a dit en Galates, « Quant à moi, je suis crucifié au monde et le monde pour moi. » Charles Colson, l'avocat derrière Richard Nixon et le scandale de Watergate, avait écrit ceci, « Je suis arrivé à tout dont j'avais rêvé comme gamin, à 41 ans, j'avais une cabine illégale de 6 chiffres, des clients qui attendaient la porte, un yacht dans le bay de Chesapeake, une limousine, un conducteur. J'étais l'ami du président et avec toutes sortes de gens qui travaillaient pour moi et d'autres qui m'auraient pu y venir. Et je ne me suis senti jamais plus pourri dans toute ma vie. » On peut arriver. On peut y arriver. Mais quand on est assis sur ça, c'est quelque chose qui détruit. Parce que la force n'est pas de Dieu. Et Dieu est celui qui bénit, qui aime, qui crée, qui fortifie et qui délivre. De notre époque, en Europe post-chrétienne, les nouveaux idoles sont le plaisir, le sexe, la réussite, la prospérité matérielle. Et quelque part, il nous faut être avisés pour construire des limites autour de nos vies. Une seule vie, elle passera bientôt. Seul ce qu'on fait pour Christ demeurera là-haut. Sur quoi sommes-nous assis? Sur quoi avons-nous pris position? Quelle est la force qui l'anime? Qu'écoutons-nous? Si nous écoutons Dieu le dimanche matin et passons 6 jours dans la semaine collés à la radio, à la télé, aux amis, Dieu ne va pas nous sembler très puissant, très utile. Ça va mettre des limites dans nos vies pour que Dieu lui-même il puisse construire, il puisse faire de nous ce que lui-même il veut faire. Et troisième image, et dans le chapitre 18, pardon, et c'est là où nous nous arrêterons. Et c'est un appel verset 1, chapitre 18. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée ! Elle est tombée, la grande Babylone. Elle est devenue un antre des démons, repère de tous les esprits impurs. Car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche, les commerçants. Elle est tombée. » Et l'apôtre Jean, il nous dit, « Le monde passe et sa convoitise aussi. » Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Construisons, bâtissons sur ce qui est éternel, sur Dieu. Ce qui passe n'est pas utile pour créer une vie durable, une vie même. Dans les boîtes, on peut se servir de vous. Ici à Babylone, quand elle tombe, il y a des lamentations et des pleurs à la fin de ce chapitre. Au verset 10. Et on pleure. Malheur, gémiront-ils, la grande ville, Babylone, ville puissante. Une heure a suffi pour l'exécution de son jugement et les marchands de la terre. Et pleure, il met le deuil sur elle, car, pas parce qu'il aimait, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. On se sert de... C'est pas l'amour. C'est l'utilité. Et on pleure sa démise, son départ. Babylone, verset 6, recevra le double de ce qu'elle aura infligé sur les nations de ce monde. L'excès d'orgueil. Verset 5, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Dieu s'est souvenu donc de ses injustices. Et quelque part, Dieu, il dit de faire attention. Qu'il y a des limites où lui-même, dans sa justice, il ne laissera pas passer à l'inaperçu, parce qu'il est Dieu, il est juste, et quelque part, il aime, il nous aime, il aime aussi ce monde, et il ne veut pas qu'on aille à la dérive avec ce système. Le 3 janvier 1944, est arrivé une des pires désastres ferroviaires. Elle est survenue dans le tunnel El Toro à Lyon, Espagne. 500 personnes ont perdu leur vie. Le train qui transportait les passagers est poussé par un locomotive et tiré par un autre locomotive. Et au moment où le train est entré dans le tunnel, le premier locomotive qui tirait est tombé en panne. Et sans moyen de communiquer avec l'ingénieur du fond, celui de derrière commence à tirer, à mettre son moteur en marche et à retirer le train dans l'autre sens. En même temps, celui qui était devant a réussi à mettre en marche le locomotif et commence à tirer dans l'autre sens. Au milieu étaient prisonniers les passagers du train qui, suite à un surplus de carbone monoxyde, ont succombé. Pardon. On ne peut pas aller et être attaché à Dieu et aussi avoir des attaches fortes qui nous tirent dans l'autre sens. On mourra. Il n'y a pas les deux qui puissent marcher. Heureusement, Jésus-Christ nous donne la solution au chapitre 17, le verset 14. Ils font la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Jésus-Christ n'est pas assis sur ce monde. Jésus-Christ est le Seigneur de ce monde. Il se dit qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui quand il y a des puissances qui s'opposent à lui, des personnes qui veulent qu'ils sont attachés à ce monde, Jésus-Christ dit que c'est ce monde qui termine dans une heure, et ceux qui s'attachent à ce monde pleureront sa démise. Mais c'est lui qui vaincra parce qu'il est le Seigneur et ceux qui sont avec lui. Et les amis, mettez toute votre confiance en Jésus-Christ qui a vaincu la mort, les péchés, même les esprits, mauvais esprits face à lui, et qui donc est assis et qui nous invite à lui faire confiance pour que ce soit lui-même qui agisse dans nos vies. Écoutons ce qu'il nous dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. 1 Jean 5, verset 5. Ou encore, qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Jean 16, verset 33, Jésus-Christ qui parle. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et là où nous en sommes, qu'on soit débutant dans sa foi, qu'on soit celui qui s'approche du Christ, qu'on soit croyant affirmé, nous faisons tous face à cette tension, ces appels. Écoutons l'appel du Christ, ayant ce cœur humble et doux et tendre, qui, quand il y a des difficultés, remettons notre sort à Dieu pour lui faire confiance, parce qu'il dit, moi j'ai vaincu ce monde. Et quelle que soit la force ou l'opposition, faisons très très attention aux appels de la luxure qui vendent tout avec le sexe, avec puissance. Faisons attention, mettons des limites autour de nous, parce que c'est Dieu qui veut nous conduire et pas laisser tomber. Dans une heure, ce plaisir est parti, Babylone est parti, il y a des pleurs et des lamentations. La lumière de la lampe n'y brillera plus. Tout cela arrivera parce que tes marchands étaient les puissants de la terre, parce qu'avec les sortilèges, tu as trompé toutes les nations. Et vous? Et moi? Serons-nous trompés? J'espère que non. J'espère qu'au contraire, nous ne participerons pas à ces péchés qui vont contre Dieu, avec ces plaisirs qui tomberont dans une heure et céderont à la douleur éternelle. Comment répondre donc? Comment répondre? Nous pourrons remercier Dieu qu'il est en contrôle. Prenons au sérieux aussi un appel de sortir. L'ange qui crie d'une voix forte, sortir de là. Nos finances. Où est votre trésor? Le Christ a dit que là où sera votre trésor, vous mettrez votre cœur. Où est-ce que vous investissez votre cœur? Deux images pour terminer. Il y avait une grenouille qui était dans de l'eau tiède. Et petit à petit, on montait cette eau tiède. Et à tout moment, la grenouille pouvait sauter en sécurité. Mais petit à petit, il se baladait, il faisait un peu de nage, natation, ça fait du bien pour les grenouilles, et puis ça dégage un peu les articulations, et il flottait autour, jusqu'au moment où l'eau était devenue un peu trop chaude, et il ne pouvait plus sortir. Et pour nous, c'est quand est-ce que ça devient trop chaud? C'est quel moment où on passe de l'autre côté, où on ne peut plus faire marche arrière, où on est pris. Deuxième image. Histoire, celle de Jésus-Christ. Pour terminer. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et se préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt, cherchez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Puis plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, Jésus nous dit, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Recevez ces paroles au nom du Christ. Amen.